Je veux remercier d'abord les organisateurs d'avoir invité un représentant de l'association Germaine Tillon, puisque la salle, si j'ai bien compris, s'appelle la salle Germaine Tillon. Vous savez, de très nombreuses salles, de très nombreuses écoles ont été baptisées au nom de Germaine Tillon en France ces dernières années, cette année et l'année dernière. Beaucoup de collèges, et qu'on a eu beaucoup de manifestations, surtout depuis la panthéonisation de Germaine Tillon au mois de mai dernier. Aujourd'hui, j'étais un peu embarrassé parce que j'avais ici, il fallait parler de, dans ce cycle de femmes scientifiques, il fallait parler de science. Et après, le titre de la conférence est Germaine Tillon, ethnologue. Donc, bien entendu, Germaine Tillon ne se réduit pas à l'ethnologie, qui a été très importante dans sa vie. Donc, voici comment je vous propose de procéder. Je vais d'abord vous citer une phrase de Germaine Tillon qui disait « J'aime beaucoup les gens qui parlent aussi d'eux quand ils vous parlent. Et plus ils le disent directement, plus ils me touchent. » Donc je me permettrai, à mon corps défendant, de vous raconter comment j'ai reconnu Germaine Tillon et pourquoi j'ai fait des missions avec elle au Sahara, il y a assez longtemps. Ensuite, je vous parlerai un petit peu donc de l'ethnologie et de sa thèse et de ce qu'elle a fait en matière d'ethnologie. Et j'ai choisi, en accord avec M. Dollier, de vous passer un film. Parce que cette année, avec trois personnes de l'association Germaine Tillon, c'est-à-dire Nelly Forger, Mme Zamansky et Marie Rameau, quand tous les quatre avons bien connu Germaine Tillon, nous avons décidé de rassembler toute une série de témoignages et de paroles de Germaine Tillon par elle-même, c'est-à-dire que vous entendrez parler Germaine Tillon, on aura pris tous les meilleurs extraits qu'on a pu trouver et dont on nous a donné l'autorisation de reporter. Donc c'est un espèce de patch qui rassemble l'ensemble de la vie de Germaine Tillon en l'espace d'une heure, mais si c'est trop long, on pourra couper si vous voulez. Donc c'est un film qui n'a pas été encore présenté et qui sera présenté à la mairie de Paris le 6 octobre, je crois. Et donc vous aurez le plaisir, ou j'espère le plaisir, de voir ce film aujourd'hui, qui a été fait par nous-mêmes avec nos propres archives. Et vous entendrez parler Germaine Tillon, ce qui est beaucoup plus enthousiasmant que de m'entendre parler, c'est bon. Alors je vais commencer, avant de vous passer le film, de vous dire comment je l'ai connu. En 1958, j'étais encore jeune, j'avais 18 ans, pour rien vous cacher, et Germaine Tillon est venue dîner à la maison. Alors, c'était une maison, une famille très bourgeoise, il y avait le papa d'un côté, la maman de l'autre côté, deux enfants, le plus jeune du côté de la maman, les deux enfants, en fait déjà de la parenté, et les garçons aînés du côté du papa, très bien. Et il y avait Germaine Tillon au milieu, qui s'amusait beaucoup, ça l'intéressait toujours beaucoup, ces choses, ces genres de cérémonies. Et elle a tout d'un coup parlé de cousins croisés et de cousins parallèles. Alors, tout le monde, ça ne savait absolument pas de quoi il s'agissait. Et donc, devant mes yeux ébahis et fort intéressés, j'ai appris ce que c'était que des cousins parallèles et des cousins croisés. Je vais quand même vous en dire un mot, puisque tout le monde ne sait pas ce que c'est. Bien, quand vous êtes enfant de deux frères, les enfants de deux frères sont des cousins parallèles, les enfants de deux sœurs sont des cousins parallèles, et les enfants d'un frère et d'une sœur sont des cousins croisés. Enfin, de savoir pourquoi on faisait ça, on trouvait, évidemment, mes parents ont trouvé que c'était un peu bizarre, mais moi j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, tiens, c'est quand même curieux. Et Germaine a vu que mes yeux s'allumaient, sans doute. Ce qui fait que deux ans après, alors que je présentais les grandes écoles, je l'avais été reçu comme ça glorieusement, elle m'avait félicité, j'étais très content. Elle m'a dit, eh bien voilà, je pars au Sahara faire une mission. Est-ce que tu viens venir? Est-ce que tu veux venir? Est-ce que vous voulez venir? Je crois que vous voulez venir, non? Est-ce que tu veux venir? On va traverser comme chauffeur. Alors, on est parti. En traversant à Marseille, avec deux Land Rover, on a traversé avec les Land Rover, et alors ça a duré trois semaines, on a traversé le Sahara, j'ai rien vu, parce que la première mission, il y avait beaucoup de bagages sur le toit, la voiture, elle avait amené beaucoup d'amis, on a traversé, et j'ai passé mon temps, le nez dans la mécanique, et à décharger et à charger les voitures, parce qu'on était très nombreux. Mais c'était quand même absolument fascinant, les paysages, superbes, et on a quand même vu quelques Touaregs à la fin, au moment du séjour. Voilà le premier voyage en 61. Et puis après, alors, pour la petite histoire, elle m'avait dit avant de partir, écoutez, qu'est-ce que vous aimez comme confiture ? Ah, j'ai dit, alors moi, les confitures, ça m'était complètement égal, parce que je voulais voyager et partir, et savoir quelle confiture j'allais manger au fond du Sahara, ça m'était égal. Elle m'a dit, je lui ai dit, bon, ben, je l'ai moqué d'elle, je lui ai dit, écoute, bon, la confiture des pétales de rose. Bon, bon, elle m'a dit, bien, bien. Et je me moquais un peu d'elle, quoi. Et puis, quand on est parti, au milieu du désert, un beau jour, avec un grand sourire malicieux, elle a sorti un petit pot, grand comme ça, qui était de la confiture de pétales de rose qu'elle avait été chercher. J'ai fait chaud, je ne sais pas. C'était Germaine Tillon. Il y avait toujours le mot pour rire et plaisanterie. Bon, pour le citer encore, sauf de placer le personnage avec quelques anecdotes, elle avait amené aussi, dans la voiture, un énorme fromage hollandais. Vous savez, les gros boudins. Bien jaune, comme ça, superbe. Et on arrive à Idéles, dans le Tassili. Alors, superbe. Et il y avait un instituteur qui était là, qui s'appelait M. Barès, qui est toujours vivant d'ailleurs, et qui était là, et à qui, quand il a vu ça, il a pris le fromage, et puis il avait tous les Touaregs qui étaient autour, puis il disait, ah là là, on va goûter tout ça. Et alors là, il n'en serait plus resté une goutte. Et Barès, qui était dans la brousse depuis longtemps, qui n'avait pas vu de fromage de choc, il a dit, il s'est retourné, il a dit, ça c'est du cochon. Bon. Il a embarqué le fromage, et les gens pensent que ça mangeait du cochon. Voilà, les petites aventures de Alors, après ça, par ce bout d'escarre, je suis parti, quelques années, je suis parti aux États-Unis, j'ai rencontré un des collègues de Germaine Tillon qui s'appelait Paul Mus, qui était professeur au Collège de France, un orientaliste réputé, et j'ai suivi 3 ans les cours de Paul Mus au Collège de France. Et pendant ce temps, Germaine Tillon a écrit en 1966 Le harem et les cousins, que certains ont lu, j'imagine, peut-être. En tout cas, il faut le lire, c'est un livre très facile à lire, et très vivant et très gai. Alors, quel était le sujet de son livre en 1966 Alors, elle revenait, si vous préférez, à ses amours, puisqu'elle avait été, vous le verrez dans le film tout à l'heure, dans les Aurès entre 1934 et 1940. Là, elle. Sa thèse a été perdue. Enfin, il y a eu quelques éléments de ce qu'elle a écrit pour présenter son mémoire en 1938. Mais grosso modo, elle avait beaucoup de notes, mais les 3 caisses, les 2000 photos, on les a récupérées. Mais les 3 caisses de notes ont disparu à Ravensbrück, dans le trésor des nazis, qui avaient considéré sans doute que ça avait beaucoup de valeur. Mais pour l'instant, on ne les a toujours pas récupérées. Donc, après ça, il y a eu la résistance, il y a eu l'Algérie, elle a laissé tomber un peu tout ça. Et donc, en 1960, elle est de nouveau professeure. Et en 1966, elle dit, voilà, elle a sorti un livre entre 1961 et 1966 qui s'appelle « Le harem et les cousins ». Elle dit elle-même, je la cite, « Le sujet de ce livre se situe dans les no man's land scientifiques, à la frontière de l'histoire, de la préhistoire, de l'ethnologie, de la sociologie. Oui. » Elle utilisait tout ce qu'elle avait comme connaissance très grande qu'elle avait ramassée avant. Et elle voulait, ça je pense que c'est ça qui va vous intéresser, qu'avec cette toute panoplie, donc qui est extrêmement riche de sa part, elle voulait décrire 2 choses. Hein. D'abord, décrire une pratique d'endogamie qu'il y avait en Aurès, donc chez des berbères, qui parlaient berbère dans les Aurès, et qui, donc décrire une pratique d'endogamie qu'elle décrit comme étant à la limite de l'inceste. Pourquoi ? Parce que on épouse, quelque chose qui est bien connu, on épouse de préférence un cousin parallèle, patrilinéaire, c'est-à-dire le fils du frère du père. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que ce qui est important, c'est de se marier dans le lignage, et on va se marier à un cousin parallèle paternel, mais un peu plus loin. Grosso modo, si vous vous appelez Durand, tous les descendants des Durand, ben pour vous que ce soit un Durand, c'est bon. Hein? Donc, elle trouvait que ce système d'endogamie n'avait pas été décrit par les anthropologues, qui s'occupaient beaucoup plus des sociétés exogamiques, des sociétés australiennes, des sociétés d'Amérique du Sud, quelques-uns en Afrique, pas tellement, et qui s'intéressaient à l'exogamie, c'est-à-dire aux gens qui ne se marient pas chez eux, mais qui vont chercher mariage à côté et qui pratiquent l'échange des femmes. beaucoup des hommes, souvent le sang, sont de place. Donc elle voyait une population où ça ne marchait pas comme ça. Donc elle a essayé de le décrire en montrant que ça s'opposait presque trait pour trait à les populations exogames qui sont chères à Lévi-Strauss, et décrit par Lévi-Strauss, et qui avait donc pignon sur rue à cette époque-là. Ça ne ressemblait pas non plus à ce que nous connaissons comme système de mariage, système d'héritage. Pour vous voyez, pour être parent, vraiment parent, pour être solidaire dans la vengeance, pour héritier les uns des autres, il fallait être cousin en ligne paternelle, en ligne masculine. Pour maintenir l'unité du groupement, du groupe, de la FERCA, on pratiquait une stricte endogamie patrilinéaire, c'est-à-dire la cousine parallèle patrilinéaire. À l'intérieur de ce groupe, il y avait une inégalité des femmes. Les femmes, c'était le pouvoir politique et de gestion de la famille était masculin. Il y avait un privilège de l'aîné. Par contre, la liaison entre le frère et la sœur sont beaucoup plus fortes qu'entre la femme et le mari. C'est-à-dire que, par exemple, pour vous donner une idée, il y a, dans les tribus d'Aurès, il y a un cimetière commun à tout le lignage, à tous les Durand, si vous voulez. Mais les tombes sont séparées par ligne. Et les sœurs, les femmes, quand elles mouraient, elles étaient enterrées dans la ligne de leur frère et pas dans la ligne de leur mari. Donc, il y avait une appartenance très forte de la liaison frère-sœur. C'est quelque chose qui est très, très important qu'on retrouvera après chez les Touaregs. Au fond, le frère est plus important que le mari. Et inversement, pour un mari, sa sœur est plus importante que sa femme. Voilà. Alors, elle cherchait à décrire cette pratique d'endogamie parce que ça, venant de France, évidemment, elle s'interrogeait et elle cherchait, c'est là que on peut dire qu'elle est une femme scientifique. Son but, c'est comprendre, regarder, et prendre des notes, un truc, et ensuite chercher à comprendre de quoi s'agit-il, en utilisant tout ce qu'elle pouvait comme outil. Mais il y avait un second sujet qui l'intéressait, c'est de comprendre la position de la femme. Pourquoi, se dit-elle, elle observait en Algérie en général une dégradation de la position des femmes. Alors, ça, elle voulait absolument comprendre et l'expliquer. Alors, quelle était sa thèse? Elle est en quelque sorte en deux morceaux. Le premier, c'est qu'elle imagine que, il y a très longtemps, puisque tous ces problèmes d'endogamie, c'est bien antérieur à l'islam, c'est bien antérieur, ça, c'est quelque chose qui remonte à la nuit des temps. Il ne faut pas lier ça du tout, ni à l'islam, ni à l'histoire récente. Enfin, l'islam, c'est pas si récent, mais enfin, elle le renvoyait au néolithique. À l'arrivée du néolithique. Elle dit, les groupes de chasseurs-cueilleurs, ceux chers à Lévi-Strauss d'Australie et d'Amérique du Sud, pratiquent l'exogamie, et elle dit, c'est pour assurer des rapports de voisinage et de contrôle des frontières et de ressources de subsistance. Voilà. Je cite Germaine Tillon, là. Et elle dit, par contre, les agriculteurs de la Méditerranée, au lieu d'exploiter la nature, ils la transforment. Donc elle dit, ça, c'est déjà une vision complètement différente des choses, c'est son avis. Et donc, il faut protéger le territoire et les greniers. Et désormais, ce n'est plus par l'échange des femmes, mais on se replie sur soi, on se replie sur sa parenté pour défendre son terrain, son territoire. On garde les champs et les femmes pour soi. La seule légalité, désormais, c'est celle des lignes paternelles. Et la préférence, voire même l'obligation, des mariages au sein du lignage agnatique entre cousins. Ça n'exclut pas que quelques cousins un peu plus loin, comme on dira peut-être, mais donc, solidarité contre solidarité dans la vengeance, héritage, inégalité des femmes, privilège de l'aînesse. Voilà, tout ça, c'est ce qui caractérisait la société de l'Aurès. Alors, pourquoi, quand elle voit ça, quelle serait la raison de la dégradation de ces sociétés? Pourquoi l'avilissement de la position des femmes et leur claustration? Alors elle dit une chose assez claire, que ce n'est pas tellement dans la tribu que ça se passe, parce que là, les femmes, évidemment, sont enfermées au sens qu'elles vivent dans le village, mais je dirais les hommes aussi, tout le monde vit entre soi. Mais c'est lors de la disparition de ces liens tribaux, à la suite de la modernisation de l'économie, parce que même si elle n'arrive pas dans les campagnes, la modernisation, tout le monde la connaît. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? C'est comme vous avez un volcan qui envoie de la cendre à l'autre bout de la planète, et bien vous recevez quand même les cendres. Et bien, la civilisation moderne, même dans les campagnes les plus éloignées, même ne voyant pas physiquement des personnes de l'extérieur, ils savent tout. Ils savent ce qui se passe. Ils sont informés. Il y a la radio d'abord, puis il y a des gens qui passent. Il y a le receveur des impôts, il y a quelques imams, il y a un avocat, un médecin, il y a des gens qui passent, ils savent tout. Donc en fait, là, peu à peu, c'est la lutte du pot de fer contre le pot de terre, l'économie moderne, c'est un pot de fer. Et ces sociétés-là sont fragiles, ne savent pas résister à ça. Ils ont une démographie qui explose, parce qu'il suffit qu'un médecin passe. Elle dit, le vrai coupable de ça, c'est Pasteur. Mais la démographie est passée de 2% à 5% en l'espace de 10 ans. Et il y a eu peut-être 1500 personnes. Ça a doublé, la population a doublé en 15 ans, dans l'endroit où elle était. Donc elle dit, les capacités locales ne suffisent pas. Donc les hommes s'en vont. Et alors, quand ils sont... quand les sociétés, en quelque sorte... disparaît, peu à peu, que les liens sociaux disparaissent. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoutez, le voisin en ville ou dans les marchés ou dans les autobus, votre voisin, c'est plus un cousin. C'est plus un cousin. C'est un étranger. Des étrangers. On n'en a jamais voulu dans cette tribu, des étrangers. Même à la limite, à plus de 10 km déjà, c'était déjà des étrangers. En France, on connaît ça aussi quelquefois. Mais. Donc, c'était les étrangers. Si ils sont étrangers, et bien à ce moment-là, les femmes, on les garde à la maison. Et si elles sortent, on les voile. Et les demandeurs, c'est pas seulement les hommes, c'est les femmes elles-mêmes, qui ne tiennent pas du tout à se promener et aussi être assiégées par les étrangers. L'étranger, ça peut être quelqu'un qui n'est pas très loin, mais c'est un étranger quand même. D'où son explication, je crois, assez normale, assez compréhensible. Je crois que c'était la première à dire ça. Et elle l'a redit après les autres années en expliquant que le voile n'était pas tellement, c'était ni l'islam, ni l'histoire, puisque l'histoire ancienne, puisque dans les tribus, les femmes ne se voilaient pas, mais que c'est la transformation, si vous plairez, c'est la dégradation de ces sociétés face aux assauts du monde économique mondial. Et éventuellement de la démographie aussi. Voilà. Alors, je vais vous parler des minutes, je ne sais pas si on passe, vous voulez qu'on passe le film ou sinon je continue encore un peu, comme vous voulez. Je continue. Bon, à ce moment, sur le film, on verra ce qu'on en fait. Alors, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que, j'arrive à vous lire La Reine et les Cousins, ben voilà, je vais vous lire un texte de Lévi-Strauss, parce que Lévi-Strauss a reçu... bien entendu, a reçu le livre de Germaine Tillion, et voilà ce qu'il dit. Le 13 juin 1966, « Chère mademoiselle, depuis bien longtemps, en fait, depuis les structures, c'est-à-dire de 1946, vers la flaque endogamique, j'avais formé le projet d'écrire pour ce livre vers la flaque endogamique qui s'est étendue en ce moment, à ce moment de l'histoire, depuis l'Extrême-Orient jusqu'à la Méditerranée. Eh bien, m'en voilà dispensé, Dieu merci, puisque ce livre, vous venez de le faire, et fort bien. J'ai lu Le Harem et les Cousins avec un extrême plaisir, car il est rare de voir dans notre profession de rencontrer un style aussi alerte et gracieux que le vôtre, et qui n'exclut ni la rigueur, ni l'érudition, ni la richesse et la fraîcheur de l'observation. Je vous en remercie, je vous en complimente en vous priant, chère mademoiselle, d'agréer les hommages respectueusement à Nico. C'est joli. Voilà pour. Alors, en 1970, Germaine Tillion avait remarqué. Rappelez-vous, en 1938, elle fait sa thèse. Après ça, c'est la guerre et c'est l'Algérie. Mais elle revient. Elle avait remarqué quelque chose que sur les termes de parenté en Aurès. Alors, c'est un texte qu'elle m'a donné, que j'ai pris quand on était en voiture au Sahara ensemble. Et donc elle me dit, je lui ai demandé pourquoi elle était venue chez les Touaregs. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'elle retourne après 66 ? pendant on a refait des missions en 70, 71, 73, 74 pendant 4 ans chez les Touaregs. Et donc là, c'était vraiment des missions ethnologiques par le CNRS. Et je lui ai demandé, mais pourquoi au fond, pourquoi on y va? Pourquoi vous intéressez à ça, puisque vous avez déjà écrit votre livre? Elle me dit, une des premières choses qui m'a frappé, un sacré bout de temps, dans mes premiers contacts avec le Maghreb, ça a été le fait qu'ils aient éprouvé le besoin d'emprunter à l'arabe une partie de la terminologie de parenté. Et dès ce moment-là, mon idée avait été essayer de voir pourquoi ils avaient éprouvé le besoin d'emprunter ces mots-là. De quel mot s'agissait-il? Il s'agissait non pas du père et de la mère, mais du frère du père et de la sœur de la mère. C'est-à-dire, ils avaient pris comme mot arabe, pour le frère du père, un autre mot que le père. Chez les Touaregs, elles savaient que le frère du père, dans les sociétés exogamiques d'autrefois, le frère du père et le père sont des pères. La sœur de la mère et la mère sont des mères. On les appelle maman, ce sont des mères qu'elles considéraient comme des mères. Et puis tout d'un coup, voilà que dans l'Aurès, le frère du père, ah non, mais on voit un point, un mot arabe. Donc ça veut dire qu'il y avait le mot arabe, il y avait un mot berbère avant. Donc ça veut dire qu'ils ont emprunté le mot. Pourquoi? Elle dit, maintenant c'est clair comme le jour, ils ont emprunté ces mots-là, donc de frère de père et de frère de mère, à partir du moment où ils en ont eu besoin. Et ils en ont eu besoin à partir du moment où leur société a viré. Tant qu'ils n'avaient pas viré, ils n'avaient pas besoin des mots en question. C'est-à-dire, elle avait observé déjà en 1938 ce que j'appelle moi maintenant un glissement de la fonction paternelle et un glissement de la fonction maternelle. Pour le moment, elle n'a rien fait, mais elle l'avait noté. Et là, donc 38, 48, 20 ans après, un peu plus, 25 ans, ça lui reste dans la tête, elle se dit, ah mais je vais quand même aller voir ce qui se passe. N'est-ce pas? Alors, elle veut comprendre pourquoi le frère du père n'est plus père, pourquoi on ne l'appelle plus papa, pourquoi les Chaouias, les Berbères du Nord, ont adopté ou ont oublié cette coutume qui était apparemment, dit-elle, probablement la sienne. Les Touaregs ne connaissent pas cette évolution. Leurs thèmes de parenté sont classificatoires, comme on dit. C'est-à-dire que de même que les cousins parallèles sont des frères, les cousins parallèles du côté du père sont des frères, du côté de la mère sont des frères, mais chez les Berbères, ce sont des cousins maintenant. Donc au fond, il y a une espèce de virement vers la famille telle qu'on la connaît, c'est-à-dire qu'il y a papa, maman, la bonne et moi, qui est beaucoup plus présent, tandis que vous verrez chez les Touaregs, puisque on va en parler, vous verrez dans le film aussi, à la limite, le frère du père est plus important que le père. Il y a un interdit de parole entre le frère aîné et le père. Quand un homme se marie, bon, il peut divorcer. S'il s'en va, les enfants restent avec la mère jusqu'à 17-10 ans. Si la mère se remarie, il y a des enfants qui ne savent même pas que le second mari de la mère, ce n'est pas leur père. Ils vivent avec eux, ils jouent avec eux, c'est leur père. Ils l'appellent papa, et puis à 10 ans, on leur dit, ah non, ton père, c'est pas celui-là, c'est là-bas. Ils ne savent pas. Alors, donc, c'est passionnant. Donc, il faut aller voir le père, d'autant plus que, comme chez les Touaregs, il y a beaucoup de Taoïstes qui sont dites matrilinéaires, c'est-à-dire que l'appartenance principale, c'est le nom de la mère. C'est-à-dire que c'est comme si le mot les Durand, au lieu d'être transmis de père en fils, de père à enfant, ils étaient transmis de mère à fille. Donc, ça l'intéressait beaucoup, puisqu'elle s'intéresse à la condition féminine. D'autant que les femmes chez les Touaregs, ah là là, c'est elles qui ont le pouvoir, c'est elles qui sont sur le devant de la scène, c'est elles qui disposent de la tente. Si elle s'en va, elles sont propriétaires de la tente où son mari vient vivre. Et si elle s'en va, eh ben, le Touareg, il n'a plus qu'à vivre, faire le clochard, à trouver quelqu'un qui veut bien l'abriter, parce que la femme, elle part avec sa tente. Donc tout ça, c'était extrêmement intéressant. Et Germaine Billot, au fond, peut-être que les anciens Chaouias, ils étaient peut-être un régime de ce genre-là. Voilà. Et sans doute, comme en plus, ils ne veulent pas se marier avec la cousine parallèle patrilinéaire, ils veulent épouser en plus la cousine à une autre cousine très particulière. Ils veulent épouser la fille de l'oncle maternel. Donc une femme croisée. Et ça, c'est un mariage qui est ultra connu chez les anthropologues de sociétés exogames. dans lequel on l'expliquait, c'est le fameux, vous savez, l'échange généralisé de Lévi-Strauss et toute la discussion qui est autour de ça. Donc c'est un mariage qui est complètement différent. Il se fait du côté de la mère et pas du côté du père. Tout ça, c'est complètement différent. Donc il faut aller voir. Alors, 1970, première mission, Charentrée. Là, celle-là, je pars pour faire des relevés musicaux. Là, on est chez les Touaregs. Petite histoire, j'ai fait la première grappe et la plus grosse de ma vie, je vous la racontais quand même, vous ne la répéterez pas, pour que tu vois, c'est que je débarque à Niamey, il y avait la voiture à réparer, et il y avait une organisation faite par Boubou Hamma, qui était le président de la Chambre nationale nigérienne à l'époque, et il avait réuni un grand repas à l'odeur de Germaine Tillion, il y avait un monde fou, il y avait les Français, le gratin de Niamey. Et puis, bon, la voiture, ça a été un peu long, et j'arrive à une demi-heure en retard au dîner. Et tout le monde attendait debout, parce que personne ne s'asseyait, vu que quelqu'un n'était pas là. Et je rentre, et je suis désespéré, et je dis, alors Germaine Tillion, pour mettre à l'aise, me dit, ben alors, qu'est-ce qui t'arrive? Vous avez bien travaillé? Ils ont bien travaillé, tout va bien? Ah, j'ai dit, oui, la voiture est réparée, ils ont travaillé comme des nègres. Silence, nègre. Et Dieu merci, j'étais jeune à cette époque-là, j'ai éclaté de rire. Et toute la salle est partie d'un rire monumental. Sur le moment, il y a eu 5 secondes très, très, très difficiles. Voilà. Bon. Là, voilà. Alors, chez les Oudalais, on va chez les. Là, les Ouliminden, vous savez qu'en ce moment, c'est la fraction Touareg, c'est celle qui a tous ses ennuis en ce moment au Mali, qui sont extrêmement connus. Voilà. Bon. Je ne peux pas dire que ce n'est pas du tout les islamistes forcenés, ceux-là, parce que ce ne sont pas les tribus du Nord qui sont très arabisées et très islamisées. Eux, ils font bien quelques prières de temps en temps, mais enfin, ça ne va pas au-delà. Hein. Voilà. Et, enfin, ils sont musulmans quand même. Hein, là, il y avait un officier. Le français qui s'appelle Charentrée, qui faisait des relevés chez les Touaregs. Il a fait un relevé de 2000 noms. Il y avait une femme, à elle toute seule, une vieille femme qui connaissait 1000 noms à elle toute seule, d'une généalogie, et qui montait pour la première fois, je crois que ça se faisait très peu, par les hommes et par les femmes. Vous savez que les études de terrain complètes par des généalogies, c'est quelque chose qui était assez rare à cette époque-là, et même encore maintenant. Maintenant ça commence, les gens font des relevés. Il n'y avait pas de relevés. On faisait par exemple, pour relever de parenté, on allait dans un hôtel, en l'espace d'une semaine ou d'une semaine, on faisait le tour, on vous appelait comment, et puis, voilà. Germaine Tillion, c'est pas son genre. Elle va quelque part, elle y reste, elle dit, si on vit pas, c'est pas la peine de faire de l'ethnographie. Donc, elle reste longtemps. Et Charentrée, il est resté 2 ans pour faire ses relevés. Ensuite, ils sont revenus avec une équipe de l'INED, et ils ont relevé les relevés sanguins, l'ensemble, pour vérifier la généalogie. Ils n'ont pas trouvé, sur l'ensemble des noms, sur 12 générations, par homme et par femme, pas une seule exclusion de paternité. Spectaculaire. Et pourtant, si vous voyez, quand vous êtes là-bas, il y a une liberté d'accès aux femmes extraordinaire. C'est-à-dire que, quand vous arrivez, vous allez saluer la femme en premier, qui est là, qui trône sur son lit, parce qu'elles sont souvent un petit peu enveloppées. Ça, c'est un signe de richesse, d'avoir eu beaucoup de lait. Et le mari se discrètement s'échappe et va se mettre de côté pour laisser les gens. Et là, qu'est-ce qu'on échange? Ben, si c'est un ami Touareg, on échange des poésies, on fait des trucs, on se fait des petits cadeaux. Voilà. Mais apparemment, ça reste très, très. Ce serait très honteux de suspecter sa femme de faire des choses pas bien. Très honteux. Alors, ça va être traité là. Moi, je fais mes relevés musicaux. Il y avait des séances de violon. Fait intéressante aussi de cérémonie du diable, c'est-à-dire qu'il y a une femme qui arrive et qui danse toute la nuit, c'est très bien. Puis à la fin, on est préféré, Germaine Tillion a dit, mais c'est bien, mais on est trop nombreux dans ce campement-là. Elle m'a dit, on va partir tous les deux, c'est-à-dire sans chauffeur, sans rien, etc. On va traverser, on va aller voir de l'autre côté du Niger les matrilinaires, les Touaregs matrilinaires, les Vaïdou, ceux qui sont les plus aînés. Donc on est parti, c'était le début d'une aventure de 4 ans, parce qu'on y est retourné 4 fois. Et le premier voyage, c'était, on a fait, je crois, 100 km en 15 heures pour rejoindre les premières tentes. Et la première tente où on a couché, ils nous ont accueillis de façon solennelle. L'hospitalité est une règle absolue dans le désert, tellement absolue que c'était chez les Kelreris, qui sont matrilinaire, c'est-à-dire qu'il y avait le chef avec sa tante, et à côté, il avait son neveu, le fils de sa sœur, sur une tente. Il a dit à son neveu, bon, bah, écoute, tu vas coucher en Beauce, et il nous a donné la tente de son, la tente de son neveu. Bon, on était un peu embêtés quand même, parce que l'autre commençait. L'autre, ça allait à peu près, mais sa femme, elle trouvait que c'était pas drôle. Et alors, au bout de deux jours, on a dit quand même, on peut pas faire ça trop longtemps, donc on l'a laissé, et on a atterri chez les Oudalènes. Donc, voilà. Alors, une dernière. Donc, voilà. Je peux vous parler des Oudalènes, évidemment, indéfiniment, parce que là, j'ai passé 4 ans. J'ai fait ma thèse avec Germaine Tillion en 1974. Grosso modo, vous ben, voyez, il y a des. C'est, c'est extraordinaire, quand on arrive là-bas, ce que c'est qu'un héritage matrilinaire. Il y a une société dans laquelle l'héritage est du côté de la mère, et ce qui fait au côté du père. C'est juste l'amour, le bien, on s'occupe, on est juste bien. Chez les sociétés patrilinaires, c'est inverse. C'est-à-dire qu'eux, ils considèrent que là où il y a l'héritage, il n'y a pas d'amour. C'est pas idiot. C'est pas bête. Hein. Ils sont assez sages. Alors, ils séparent rien. Ils séparent rien. Voilà. Donc, les femmes, alors, c'est pas parce que les femmes sont propriétaires. Elles sont propriétaires parce qu'elles transmettent les biens. Mais c'est pas elles qui gèrent. Donc, si on ne fait pas attention, l'homme, il gère les troupeaux, il a l'impression d'être le chef parce qu'il gère. Mais en fait, c'est les biens de sa sœur ou les biens de son neveu. Voilà. Alors du coup, les relations entre le fils et le neveu sont des cousins croisés, enfants d'un frère et d'une sœur. Alors eux, la plaisanterie est obligatoire, parce qu'il y en a un, grosso modo, qui prend l'héritage de l'autre. Voyez. Alors on l'appelle mon petit esclave, etc. Et celui qui a hérité, eh bien le fils, parce que l'héritage de son père part de l'autre côté, part chez son cousin croisé, alors il a le droit de lui piquer des trucs. Il lui dit, alors, sous son voile, tiens, j'ai vu ta bouche, elle est comme ça. Alors tout le monde rigole, parce que mais bon, il y a un voile, théoriquement, c'est pas ce qu'il y a dessous, mais tout le monde le sait. Ou il lui dit des choses plus grossières, ou il lui met, je crois qu'il y en a une fois, il lui met une petite grenouille, une petite bête dans son thé. Ou enfin, c'est ça, où il lui pique ses chaussures, etc. Et puis l'autre, il n'a pas le droit de se fâcher. Interdit de se fâcher. Donc, il est obligé. Ça s'appelle une relation plaisante. Donc les troupeaux sont gérés par les hommes et appartiennent aux femmes. Là aussi, c'est quelque chose de très intéressant, parce que ça veut dire, fondamentalement, ils n'acceptent pas la propriété privée. Parce que, vous savez, il y a 3 droits dans la propriété. Usus, rectus, abusus, si je les atteins. Le droit d'avoir le lait, le droit d'avoir le petit, le droit d'avoir la viande, de tuer l'animal. Là, systématiquement, on s'arrange pour que les droits soient répartis, soient pas au même endroit. Et donc, en fait, dès qu'on veut vendre quelque chose, c'est pas une société commerciale. On ne peut pas vendre. C'est impossible. Il faudrait que la chose soit privée. Alors que dans le Nord, vous avez des terres arch, qui sont des terres collectives. Et vous avez des droits d'usage, qui sont d'ailleurs permutables, comme dans la Bible, où chaque année on tire son lot. Puis vous avez des biens melk, qui sont des biens privés. Et eux, ils sont régis par le droit musulman et qui peuvent être vendus. Évidemment, vous sentez bien que si le curseur est tel que les biens privés augmentent et les biens collectifs diminuent, vous pouvez changer les rapports dans la société, dans les rapports parentaux de la société. Voilà. Alors, ici, au fond, finalement, ce que dit Germaine, c'est une véritable inversion de la mécanique sociale, voilà, entre le Nord et le Sud. Alors, là, je crois qu'on peut peut-être passer le film, et puis on s'arrêtera après la...